Cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 24 mars 1994.
Il y a une question à propos de l'encyclique du Saint-Père. C'est toujours très délicat, n'est-ce pas ? Dans son encyclique Veritatis Splendor, numéro 52, le Saint-Père écrit ses lois universelles et permanentes correspondent à ce que connaît la raison pratique et elles sont appliquées dans les actes particuliers par le jugement de la conscience. Le sujet qui agit assimile personnellement la vérité contenue dans la loi. Il s'approprie et fait sienne cette vérité de son être par ses actes et par les vertus correspondantes. Les préceptes négatifs de la loi naturelle sont universellement valables. Ils s'obligent tous et chacun, toujours et en toutes circonstances. En effet, ils interdisent une action déterminée, Saint-Père et pro-Saint-Père, sans exception, parce que le choix d'un tel comportement n'est en aucun cas compatible avec la bonté, la volonté de la personne qui agit, avec sa vocation à la vie avec Dieu et à la communion avec le prochain. Il est défendu à tous et toujours de transgresser des préceptes qui interdisent à tous et à tout prix d'offenser en quelconque et avant tout en soi-même la dignité personnelle commune à tous. Je sais très bien que le Saint-Père dit en méditant ce passage, oui, mais le Saint-Père dit en méditant, mais en réalité, c'est une contemplation de sagesse, que la morale chrétienne se comprend dans cette rencontre du jeune homme riche avec Jésus. Ce jeune homme riche a la foi de l'Ancien Testament. Il vit de la loi. Et il sent bien qu'il a quelque chose de plus à cause de la présence de Jésus. La présence de Jésus a été pour lui comme un appel vers quelque chose d'autre. Quelque chose de plus profond. Et il veut trouver Jésus pour voir qu'est-ce que c'est que cet appel, qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand Jésus lui dit avec précision le comment pour le suivre, c'est trop dur. Et pour le Saint-Père, le jeune homme riche, c'est l'homme d'aujourd'hui. Nous sommes tous des jeunes gens riches. Au point de vue connaissance, les connaissances intellectuelles, techniques, nous sommes des jeunes riches. Et le Saint-Père montre que ce qui caractérise la morale chrétienne, c'est le dépassement de la loi. Et ça, je crois qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Parce qu'on aurait la tendance, vous voyez, quand on lit un passage comme celui-ci, de dire, et ça a été un des reproches qu'on a fait à l'encyclique, au fond, le Saint-Père revient à la loi. Eh bien, ce n'est pas vrai. Si on comprend que le chapitre premier est la lumière de toute l'encyclique, mais le Saint-Père saisit que, de fait, cette morale nouvelle, ou l'abandon de certains aspects de la morale chrétienne, proviennent des rapports entre liberté et loi. Donc vous voyez, c'est un regard réflexif, critique, qui saisit où il y a le nœud de la déviation. On voit très bien ça. Et qu'à regarder dans les routes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait partout ces circuits où on est obligé de ralentir pour voir à droite, un peu plus, un peu moins à droite, un peu plus à gauche. Un rond. C'est comme ça l'encyclique. On saisit les nœuds de déviation. Alors, c'est une vision de sagesse pour saisir à quel moment il y a la déviation. À ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Et si je devais exposer l'encyclique, je montrerais tous les coups. théologie moderne. Donc tous ces théologiens que le Saint-Père regarde remplacent la métaphysique par une anthropologie. Or, ces nœuds, ou bien ici si vous voulez, ces nœuds qui assument un courant d'idées, sans voir que ce courant d'idées est en contradiction avec la vision de sagesse. C'est ce que le Saint-Père souligne. Si vous prolongez ça, vous arrivez à une théologie morale qui est en contradiction avec cette sagesse chrétienne. En contradiction avec la tradition, avec l'enseignement actuel de l'Église. Oui, donc c'est le pasteur qui vient au devant des brebis, mais il ne parle pas directement aux brebis. Il parle à ceux qui enseignent, aux étoiles qui tombent sur la terre. Prenez ceux qui devraient éclairer et rester au niveau de la sagesse, tombent sur la terre, sur ces courants d'idées, ces courants philosophiques, et les assument, sans voir qu'il y a un venin, un poison dedans, et que si on les assume, la foi disparaît. C'est ce que disait le bon père Duval à Fribourg quand on l'avait invité pour voir si on ne pourrait pas faire une nouvelle théologie en se servant de la philosophie de Hegel ou de la théologie de Hegel. Et le père Duval, qui avait bien étudié Hegel, a dit, après avoir un peu exposé la pensée hegelienne, mes chers amis, il parlait à tous les étudiants, mes chers amis, surtout ne faites pas une nouvelle théologie avec Hegel. Vous perdrez la foi. Bien, c'est ça que le Saint-Père montre. Tous ces théologiens qui assument ces différents courants d'idées. Alors c'est ça qui serait intéressant, c'est de voir quels sont ces courants d'idées que le Saint-Père a dénoncés. Et pourquoi a-t-il pris ces différents courants d'idées ? Perdent la foi. C'est-à-dire font une théologie morale qui n'est plus une théologie morale chrétienne, qui est leur théologie, leur œuvre propre, mais qui n'est plus une théologie morale, qui n'est plus conforme à l'enseignement d'Église. Oui, je crois ça très très important. Oui, c'est de la critique. Une super critique. C'est une super critique. Mais le Saint-Père à une sagesse chrétienne. Cette sagesse chrétienne, elle se défend. Et elle a la capacité de critiquer. Et elle a la capacité de noter à quel moment on a fait un amalgame. On a fait un mélange qu'on ne devait pas faire. On ne peut pas atteler un bœuf et un âne. Alors le bœuf, c'est la sagesse chrétienne. Et l'âne, c'est le courant d'idées moderne, n'est-ce pas ? Et alors on veut atteler les deux, et comme dit l'ecclésiastique, on ne peut pas atteler les deux. Ça risque de faire quelque chose qui est inintelligible, on ne sait plus où on en est. Et les bons chrétiens mangent cette herbe, se mélangent, et au bout d'un certain temps, ils perdent la foi. C'est ça, je crois. de la liberté et de la loi. Parce que dans la philosophie moderne, depuis Kant, et avant Kant, depuis Occam, le saint-père ne cite jamais aucun nom. Oui, c'est saint-père. C'était théologien, et il citerait. Et c'est le rôle du théologien de citer. Mais lui, il ne cite pas. Il voit le pauvre type qui est dans le puits. Et que la fumée qui sort du puits de l'abîme est en train de le prendre. Et au terme, il sera lui-même dans le puits de l'abîme. Alors qu'il aurait dû rester dans le ciel pour éclairer. Selon le langage de l'Apocalypse. Seul Saint-Pierre n'en voit pas le langage de l'Apocalypse. Mais si c'est important de voir que de fait on vit cela, je crois qu'on vit ces annonces, malheur, malheur, malheur. On est en face de ça. Ce qui augmente notre espérance. C'est, on doit être encore plus dans l'espérance parce qu'on voit que la lutte est très très forte et qu'elle touche le point de vue de l'intelligence. Elle les théologiens. La lutte n'est pas périphérique, elle est très intérieure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dénoncer toutes ces philosophies, ces grandes idées. Vous voyez, et c'est là la difficulté, et en même temps, si je lis l'encyclique en théologien, je suis déçu. Si je lis l'encyclique comme chrétien, c'est tout simplement faire sien. C'est ça, assimiler. Ouais, le Saint-Père connaît sa philosophie, mais on sait très bien que ici, ce n'est pas son point de vue. Alors, on aurait pu, ne m'était pas assimilé, mettez quelque chose de plus, de moins précis qu'assimilé. On est en code naturalité. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est ça qui est intéressant à voir, parce que je crois que c'est ça qu'il faut saisir. Ces lois universelles permanentes correspondent à comprendre que c'est ce concept de liberté qui de fait est constamment le point le plus vulnérable et le point d'opposition. On a mis la liberté comme un absolu. On fait de la liberté un absolu. Qu'est-ce qui a fait ça dans l'histoire ? Le Saint-Père ne le dit pas. Ça, c'est le théologien qui doit le dire. À quel moment la liberté est-elle devenue un absolu ? Descartes. Et certains passages du pape, si on n'est pas très attentif, on dirait, mais il a l'air d'être lui-même d'avoir accepté ça. Non. Il montre que, mais il ne dit pas à quel moment. Il montre qu'avec Descartes, la liberté est devenue un absolu. Descartes dit textuellement que c'est la liberté que je possède en moi, qui me met le plus proche de Dieu. C'est par là que je suis semblable à Dieu, par la liberté. Alors, évidemment, je comprends que la loi, à ce moment-là, doit être bannie. Et on dit, quand le Saint-Père, quand l'Église, dans son enseignement, parle de la liberté, parle des lois, des préceptes, elle supprime la liberté. Et c'est comme ça, je crois, qu'on doit essayer de lire l'encyclique. Le Saint-Père est tout à fait d'accord que lorsqu'il s'agit de la morale chrétienne, ce qui est premier, c'est la rencontre avec Jésus. Rencontrer Jésus, c'est l'aimer. Et si le jeune homme riche n'a pas su vendre ses biens pour suivre Jésus, c'est parce qu'il ne l'aime pas assez. Devant le dilemme, amour du Christ, amour des biens terrestres, il opte pour ses biens terrestres. Le jeune homme riche moderne, pris par ses idéologies. S'il demeure dans ses idéologies, il ne rencontre jamais Jésus. L'idéologie de la liberté comme un absolu m'empêche de rencontrer Jésus. Puisque quand je rencontre Jésus, je dois l'aimer et le suivre. Si je le suis, je mets quelqu'un au-delà de ma liberté. Et ma richesse moderne, c'est d'être libre. Libre d'une liberté absolue. Je ne rencontrerai plus jamais Jésus. Vous voyez, au fond, l'encyclique dénonce tous les grands obstacles à la rencontre de Jésus. C'est ça qu'il dénonce. Et cela, à ce point de vue-là, c'est très important. Je ne dois pas chercher dans l'encyclique une théologie ou une philosophie. Il est au-delà. Il est au niveau de la tradition chrétienne. Au niveau d'une sagesse évangélique. Et cette sagesse évangélique, c'est rencontrer Jésus. pas la théologie. C'est le Christ. Suive l'agneau partout où il va. C'est une théologie mystique. Suive le Christ. De sorte que le chapitre 1 commande toute la vision du chapitre 2 et commande la vision du chapitre 3. Mais je comprends très bien que là, le chapitre 2, les grands obstacles aujourd'hui, tout ce qui se dresse devant nous et qui empêche d'être unis à Jésus. L'idée. pas dans l'idéa. Mais au point de connaissance, l'idéa est première. Et l'idéa mesure l'œuvre. Au point de connaissance. Or, la critique regarde la connaissance. Je ne fais pas la critique artistique, je fais la critique de la connaissance. Vous voyez ? Il faut bien se rappeler ça. Et je vois que parmi nos connaissances, il y a une connaissance artistique d'un type tout à fait particulier, qui a cette qualité d'être